ce matin, je voudrais vous parler de communication. David, qui était un homme de communication. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, tout passe par la communication. La publicité, l'image, le discours, la politique, même l'annonce du retard des trains. On en a fait même un métier, c'est enseigner la communication. On a l'impression que c'est vraiment actuel et qu'avant, il n'y avait que des tyrans qui imposaient d'une manière autoritaire leurs lois. Mais en parcourant la Bible, on remarque que certains hommes connaissaient cette qualité de la communication. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le roi David, il y a 4000 ans, était un homme de dialogue et de communication. Sous bien des aspects, ce que vivait un David et d'autres était tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Peut-être même encore, peut-être par rapport à aujourd'hui. Et le problème de David, c'est qu'il est peut-être un expert en communication, mais pas dans tous les domaines. L'épisode que je vous propose de regarder ensemble ce matin se passe juste après son élection comme roi. Il vient d'être choisi par Israël. C'est une période de tension. Rappelez-vous la lutte avec Saül, qui a divisé un peu le pays. Donc, il y a une certaine instabilité dans le pays. Quelle attitude va avoir David pour obtenir une autorité reconnue? Sur quel principe va-t-il asseoir sa royauté? Alors, je vous propose de lire et de prendre avec moi 1 Chronique au chapitre 13, et où nous lirons déjà les 4 premiers versets. Nous allons lire tout le chapitre, mais en le morcelant. David tint un conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes, et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, nous envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs, les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne s'en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. » David est le contraire d'un dictateur. Désolé. Il montre dès le début qu'il n'est pas le patron, qui dirige tout. Comment il expose son point de vue d'abord avec les chefs du peuple, avec ses conseillers, son administration, on va dire. Il attend d'eux d'avoir des remarques, des conseils, et s'affirmant en écoutant, en dialoguant. Le deuxième aspect de la communication chez David, c'est qu'il s'adresse à tout le peuple. Il les convoque, si on veut, en assemblée générale, pas pour leur dire ce qu'il a décidé. Lui et les chefs militaires et politiques, mais pour leur demander ce qu'ils pensent d'un projet. Il dit, si vous le jugez bon. ce qui signifie « dites-nous votre avis ». C'est la notion de la démocratie bien avant l'heure. Cela impliquait qu'une majorité de voix favorables se dégage, ce serait cela qui ferait décider David à poursuivre son projet. Il n'affirme pas être le seul à connaître la volonté de Dieu, mais il demande au peuple de réfléchir sur ce qu'il pense de ce projet par rapport à Dieu. Et toute l'assemblée trouva cette proposition judicieuse, et l'on déclara qu'il fallait la suivre. Le résultat, après cette communication et cette consultation de David, est que le peuple adhère au projet et l'engagement est commun par la suite. David rassembla donc tout Israël, il est dit au verset 5, monta pour faire venir le coffre de Dieu. Un petit rappel. Le coffre de Dieu ou l'arche de l'Alliance, rappelez-vous, avait été abandonné par les Philistins. Rappelez-vous, en une guerre avec Israël, le peuple philistin avait pris le coffre de l'Éternel et l'avait emmené dans leur temple, bien des années auparavant. Il l'avait capturé et puis après qu'ils aient eu énormément d'ennuis avec le coffre, ils ont décidé de s'en débarrasser et de le remettre en Israël. Mais bon, ils ne l'ont pas amené n'importe où, le plus près était le mieux pour eux. Son désir de ramener donc l'arche de Dieu, ce coffre qui symbolisait la présence divine, David voulait par-dessus tout, avant tout, être assuré de la présence de Dieu et de le mettre à la première place. Il prouvait que pour lui, il n'y avait rien de plus important que de s'occuper des affaires de Dieu et de l'honorer même dans les règles et avant les règles et les problèmes du pays. David montre ainsi qu'il désire communiquer avec Dieu pour exercer sa responsabilité de roi, et c'est remarquable comme exemple. Au fait, pour nous, comment montrons-nous que nous mettons Dieu en premier dans notre vie? Symboliquement, peut-être pas en commençant la journée par une communication avec lui, en lui parlant. C'est tellement important, en voulant qu'il soit présent avec nous, peut-être aussi en lui remettant nos projets, en lui remettant les projets quand ils sont au début, et non quand l'échec devient inévitable. Rappelons-nous ce proverbe qui dit « Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il te montrera comment tu dois agir. » Alors, je vous invite à continuer la lecture des versets 5 à 8. David assembla tout Israël, depuis Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée d'Amath, pour faire venir de Kiriath Jearim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kiriath Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, ils l'emportèrent de la maison d'Aninabat. Uzza et Akko conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Arrêtons-nous là. pour l'instant, David va employer les grands moyens pour mener à bien ce projet, pour ramener l'arche. Il prend un char tout neuf, il ne veut pas une occasion, pas du bas de gamme, mais il veut le nec plus ultra. On donne le meilleur pour Dieu, se dit-il. Puis on met deux hommes à côté du char de manière à assurer la bonne marche, et Dieu garde du corps également, et le roi en personne, sans compter toute la foule qui y est. Tout le peuple est là pour souligner l'importance de cet événement à la gloire de Dieu. On ne lésine pas sur les moyens. Et c'est un déferlement de joie de tous. Les chants montent en l'honneur de Dieu. David a fait venir tout un orchestre pour célébrer Dieu. Rien n'est trop beau selon David pour honorer Dieu. Remarquable comme attitude, non? Mais continuons l'histoire. Les versets 9 à 14. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza. David eut pour peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferai-je encore entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui, dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Voilà, le problème arrive. C'est là que ce n'était pas entièrement selon Dieu. Comment s'est-il manifesté? Par une mauvaise manœuvre des bœufs. Vous savez, les routes à ce moment-là n'étaient pas macadamisées. Ce n'était pas un beau billard comme on fait pour le Tour de France. Mais c'était de la terre battue, des rochers, des... Et donc, à un moment donné, le char a basculé un petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Uzza a voulu retenir le char, l'arche de Dieu, l'a touché et il en est mort. Un incident de terrain. C'est ça qui allait faire tomber l'arche. La raison de cela était spirituelle. David n'avait pas communiqué avec Dieu. Il avait bel et bien communiqué avec le peuple, horizontalement, mais verticalement, il ne l'avait pas fait. Pourtant, Dieu, lui, l'avait communiqué avec son peuple. Et il avait prévenu que si on touchait, on allait mourir. En fait, David voulait faire pour Dieu, mais sans faire selon Dieu. Plus tard, quand il transporta à nouveau le coffre, David reconnaîtra, nous ne sommes pas occupés de ce qui concerne Dieu selon la loi. Aujourd'hui, comme depuis toujours, l'être humain recherche Dieu, entreprend même beaucoup pour lui. C'est louable comme démarche aux yeux des hommes. Mais qu'en est-il pour Dieu? Nos choix sont-ils conformes à sa volonté? Saint Augustin disait, beaucoup d'hommes cherchent Dieu, mais il en est peu qui le trouvent, parce qu'ils le cherchent en dehors, là où il n'est pas. Chercher Dieu en dehors de sa loi, de sa parole, c'est passer à côté de la vérité. Ce manque de communication avec Dieu a entraîné des drames. La mort d'un homme, le malheur d'une famille. On peut voir là la solidarité dans le mal que tout le monde supporte. Comme David, par sa négligence par rapport à la volonté de Dieu, a entraîné ce drame, pour cet homme et cette famille. Le mal des uns peut entraîner le malheur pour d'autres. Et nous sommes peut-être nous aussi victimes, ou alors ce sont les autres qui sont victimes suite à notre comportement. David est profondément irrité face au jugement de Dieu. Il trouve ça totalement injuste, alors qu'il pouvait estimer avec raison avoir tout fait pour Dieu, avec tout le bien qu'il avait accompli pour Dieu. Voilà comment il est récompensé. On réagit ainsi quand on fait quelque chose pour Dieu, mais en dehors de Dieu. La peur pour David suit l'amertume contre Dieu, et cette peur entraîne l'éloignement vis-à-vis de lui. Mon Dieu, plus loin de toi, disait Jonas, qui fuyait devant Dieu, parce qu'il n'acceptait pas sa parole. Nous pourrions dire, si Dieu te semble loin, devine qui s'éloigne. La culpabilité provoque chez David le repli sur lui-même. Il est prêt à se couper de la présence de Dieu à travers le fait de se séparer du coffre de l'Alliance qui symbolisait cette présence de Dieu. Comment oserais-je faire venir le coffre chez moi, disait-il. Vu mes égarements, comment accepter la présence, le pardon du Seigneur? Je suis trop indigne, ma misère est trop lourde face à toi. C'est ce que ressentait également l'apôtre Pierre. Quand Jésus a permis qu'il ait une pêche miraculeuse. Seigneur, Pierre dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Cette réaction est négative. Quand on se complaît, pour s'auto-punir, on reste coupé de Dieu. Et on reste également alors coupé de sa grâce. Chaque fois après cette prise de conscience du péché et après cette repentance qui reconnaît la faute, Jésus guérit et relève. Pendant une période, David est resté coupé de la présence de Dieu. En laissant ce coffre chez Obed-Edom, il a choisi l'éloignement et le manque de communication, de relation avec Dieu, en tout cas pour une période. Cet éloignement a commencé par l'éloignement de la parole de Dieu et ensuite par celui dans la communion avec lui. L'apitoiement sur soi-même conduit à l'autodestruction, mes amis. C'est là le regard vers le Seigneur et l'écoute de sa parole qui relève. Et pourtant, Dieu bénit là où il est. David laisse le coffre dans la maison d'Obed-Edom. Celui-ci doit s'en accommoder pendant 3 mois. il n'a pas trop le choix. Mais voilà, où Dieu est présent, là est la bénédiction. Et l'Éternel bénit la famille des Tomés. David avait fait de grands efforts pour être assuré de la présence de Dieu, mais il n'avait pas cherché à communiquer avec lui. Il cherchait à faire pour Dieu, et il avait oublié l'élément le plus important, vivre soumis à sa parole. À nous tous qui avons accepté des responsabilités dans notre communauté, et également comme chaque membre ici présent, que le Seigneur nous aide à vivre soumis à sa parole, aujourd'hui comme demain, comme fondement de tous nos projets et de nos actions. Amen.